100% entrepreneur.
Confidence d'un parcours.
Ils vous disent tout sur We Do Biz.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane Vincent sur We Do Biz pour l'émission Le Jukebox de ma vie, où je reçois aujourd'hui Philippe Green. Bonjour Philippe.
Bonjour Stéphane.
Alors Philippe, vous êtes le patron, le fondateur de
Ecofrugal Project.
Ecofrugal Project. Voilà. Alors, c'est quoi? C'est un projet, c'est une entreprise, c'est quoi?
C'est un projet, c'est une ambition, c'est dynamique. C'est pour ça que j'ai voulu le mot project et aussi un terme anglo-saxon, parce que ça ne se limite pas à la France. L'ambition, elle est démesurée. Au moins, on essaye. Le but, c'est de convaincre les individus et les entreprises de réduire leur impact environnemental. Alors, si je vous dis ça, je suis pas le premier, c'est pas particulièrement original. Ce qu'on apporte en plus, c'est le levier financier. On montre aux individus et aux entreprises qu'en réduisant leur impact environnemental, elles vont faire des économies.
Alors, votre truc, c'est bien d'être un entrepreneur militant.
Voilà.
Et à la fois de monter une entreprise pour en faire quelque chose de économiquement viable.
Exactement.
Mais en même temps, qui permet d'avoir un engagement sur la planète. Et qui permet à chaque individu, au final, de s'y retrouver.
Au final, chaque individu de s'y retrouver, de pouvoir agir, de concilier économie avec écologie. C'est une entreprise, ça aurait pu être une association, mais je pense qu'aujourd'hui, une entreprise, elle a les moyens d'assurer son existence. Le but, c'est d'assurer une pérennité. Pour ça, il vaut mieux être indépendant et pas être tributaire des subventions. Et ensuite, il y a un appétit des entreprises pour les services qu'on offre. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une viabilité, une pérennité au même titre que n'importe quelle autre entreprise.
Alors, aujourd'hui, vous avez créé ça, ça fait combien de temps?
Ça va faire un an. Ça fait un an.
Et alors, par rapport au business plan, par rapport à tous les éléments, est-ce que vous êtes exactement sur ce que vous attendiez? Est-ce que ça se développe mieux, moins bien?
Alors, par rapport au business plan,
enfin, le but du business plan, c'est quand même surtout de ne jamais être parfait.
C'est Churchill, à propos du sport, disait no sport. Moi, je vais pas me permettre de dire no business plan, mais il y a effectivement la première chose d'un business plan, c'est de revenir dessus. Moi, au départ, il y avait une ambition au départ, un projet simple, c'est que ce que je viens de vous dire, concilier économie avec écologie, il fallait l'aborder de manière concrète, et donc ça a commencé déjà par la diffusion d'un livre.
Qui s'appelle
le guide écofrugal, que j'ai écrit en amont. Je l'ai pas écrit donc de 2009 à 2012 avant de lancer l'entreprise. Et le guide écofrugal résume ces concepts sous la forme de fiches pratiques. C'est 572 pages de solutions économiques et écologiques.
Alors, attendez, je suis en train de le feuilleter. J'ai bien vérifié qu'il y en a 572.
Là, il y en a même un peu plus parce que c'est la version papier. Ouais, et j'en profite pour dire
574.
Voilà. Et j'en profite pour dire aux auditeurs que la version électronique est gratuite sur Internet. Il suffit d'aller sur le site ecofrugalproject.org et vous pouvez télécharger l'intégralité du livre sous format de e-book en PDF.
Alors, c'est écrit dessus, dépenser moins, vivre mieux, agir maintenant.
Voilà. Alors, c'est la déclinaison de ce que je vous ai dit tout à l'heure, concilier économie avec écologie. Si on le décline pour le grand public, concrètement, ça veut dire ça. Et ce sont, pour répondre à votre question, le succès, ce dont je m'aperçois, c'est que cette approche est de plus en plus dans l'air du temps. On parle aujourd'hui de consommation émergente. Et en fait, c'est quand on parle de consommation émergente, on parle de troc, on parle de dynamique collaborative, on parle d'achat d'occasion, on parle de do it yourself, le fait maison, de débrouille, système D. Et tout cela, en fait, on le retrouve dans le concept d'écofrugalité, puisque toutes ces tendances ont en commun deux caractéristiques, c'est être à la fois économique et écologique.
Alors on voit, hein, là je le prends au hasard, il y a une fiche qui s'appelle « Faites connaissance avec votre maison » sur la fiche diagnostic de performance énergétique. Alors juste après, il y a une fiche sur l'empreinte écologique de vos animaux avec la fiche sur les animaux familiers.
Voilà.
Je vais un petit peu plus loin, je suis sur le certificat d'économie d'énergie. Et là je suis sur les régimes minceurs. Bref, je pense que de toute manière, le temps d'en faire le tour, vous aurez déjà fini l'émission. On va quand même revenir sur votre jukebox, puisque je vous ai posé la question traditionnelle de la maison. Donnez-moi une musique pour me dire d'où vous venez. Et là, vous avez choisi Francis Lemarque pour une chanson qui s'appelle « À Paris ».
Voilà, parce que je suis né à Paris, tout simplement.
Alors, on écoute ce merveilleux morceau et on revient dans votre aventure écofrugale.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit. Tout ça parce qu'il s'aime à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent des fonds, les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant.
car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement. Il y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains et qui est là depuis le matin. Au café, il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux. À la Seine, et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles. Sur la Seine, les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. V'là l'ennui, à Paris, au 14 juillet, à l'allure des lampions, on danse sans arrêt, au son de l'accordéon, dans les rues. Depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs et à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sur les papiers sans arrêt, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris.
Alors ça y est, on pose l'accordéon, on pose la baguette et le béret. C'est votre truc, ça, Paris, le côté titi, le côté justement homme des faubourgs à vous promener sur les pavés.
Oui, et d'autant plus que maintenant j'habite dans la Goutte d'Or, un quartier populaire, comme il en reste plus beaucoup, et donc j'adore effectivement.
Vu sur le Sacré-Cœur.
Vu sur le Sacré-Cœur, et puis toute la Goutte d'Or, il y a une richesse, il y a une diversité incroyable. Donc, les faubourgs populaires effectivement, même s'ils ont tendance un peu à disparaître, il y en reste et c'est très agréable de vivre dans ces endroits.
Alors, vous avez toujours été parisien ?
Alors, en fait, non, parce que. Donc je suis né à Paris, mais je suis parti à l'âge de 3 ans et j'ai vécu en Afrique de l'âge de 3 ans et demi à 12 ans.
Alors on va revenir sur cette période-là, mais quand vous êtes né, vos parents faisaient quoi et rapidement, bah du coup, ça va peut-être nous amener à expliquer pourquoi vous êtes parti en Afrique.
Tout simplement parce que mon père était haut fonctionnaire et donc on est parti vivre en Afrique parce qu'il était diplomate. Et donc j'ai eu la chance de passer toute mon enfance avec mon frère et ma sœur et ma famille dans différents pays africains.
Alors comment ça se passe justement quand on a 3 ans et qu'on découvre et que d'un seul coup on est français mais on n'est pas en France? Comment on vit ça?
Alors,
vous étiez dans quel pays? Vous pouvez nous citer quelques pays?
Oui, j'habitais à Madagascar. Ensuite,
alors, Madagascar, c'est un pays, c'est un territoire. C'est quoi? C'est un pays en tant que tel?
Alors Madagascar, oui,
c'est une ancienne colonie.
C'est une ancienne colonie française. Tous les pays où j'ai vécu, en fait, ce sont des pays francophones et d'anciens.
Ouais, on dit pas des comptoirs puisque c'était sur l'approche indienne.
D'anciennes colonies françaises. Ah. Et donc Madagascar, j'ai habité de l'âge de 3 ans à 6 ans et demi. Ensuite, j'ai habité en Mauritanie pendant un an. Et ensuite à Djibouti, un petit pays, ouais. Ville-État presque, de l'âge de 8 ans à presque 12 ans.
Et donc en tant qu'enfant, comment vous viviez ça?
Alors pour répondre,
c'est pas pareil.
Pour répondre à votre question, effectivement, en fait, la singularité de ce qu'on vit, on l'aperçoit pas du tout. C'est seulement quand on rentre en France qu'on s'aperçoit qu'on a une enfance différente des autres, parce que on est souvent dans des écoles françaises avec d'autres enfants d'expatriés ou de diplomates, de militaires. Donc tout le monde a un peu la même vie. Donc on remarque pas notre singularité. C'est seulement en rentrant qu'on se rend compte qu'on a une enfance privilégiée.
Alors privilégiée et en même temps avec une le fait de, c'était vous l'étranger.
Oui.
C'est-à-dire que là où vous étiez pas dans votre pays Est-ce que c'est justement cette condition, en tout cas, cette, ça crée une, quelque chose de particulier, c'est-à-dire que le fait de vous retrouver avec des enfants qui parlent peut-être pas toujours votre langue, qui étaient dans un environnement différent, qui ont une culture différente.
Alors, on était en Afrique francophone, donc malheureusement, ouais. J'ai pas développé d'autres langues.
Vous n'avez pas attaqué les dialectes encore.
J'aurais pu apprendre, par exemple, l'arabe pour la Mauritanie. Je l'ai pas fait. Donc on est quand même dans un environnement francophone, dans des écoles francophones. Ce que je crois, c'est que cette enfance-là, ça rend curieux et ça permet de se rendre compte de la richesse du monde et aussi de tous les problèmes potentiels liés à la surexploitation des ressources, liés au je pense à Madagascar, au fait que actuellement il y a quasiment toute la forêt primaire a disparu, que la biodiversité disparaît, et du coup
ça crée une sensibilité particulière et un regard un petit peu particulier.
Exactement, ça crée une sensibilité particulière qui nous suit ensuite dans notre vie d'adulte, et quelque part je pense que si j'avais pas eu cette enfance en Afrique, je serais pas là où je suis actuellement, j'aurais pas lancé ce Ecofrugal Project, tout simplement parce que c'est Mère Teresa qui disait « ce qui me choque, c'est pas qu'il y ait des riches ou des pauvres, c'est le gaspillage ». Petit enfant en Afrique, vous n'êtes pas choqué par les riches ou les pauvres, c'est presque, malheureusement, ça fait partie de l'ordre naturel, c'est tellement marqué, on est un très jeune âge, on le voit ça, on n'est plus choqué malheureusement. Par contre, quand je rentrais en France en vacances, je voyais le gaspillage, et là, ça m'insupportait. Ça m'a supporté. J'ai jamais pu accepter ce gaspillage. J'ai jamais pu accepter de voir les poubelles pleines, la nourriture gaspillée. Et donc, c'est mon intérêt pour les questions environnementales, je pense, vient de là. Au-delà du fait que mon enfance m'a peut-être donné une sensibilité au beau paysage, ce genre de choses. Mais je pense que ça vient aussi d'une approche un peu militante qui fait que quand j'étais enfant, j'ai jamais pu supporter le gaspillage.
Alors, on va quand même profiter de cet épisode africain pour nous se rebaigner dans un morceau qui a été bien connu en France,
oui.
Qui était celui de Mori Kanté avec Yeke Yeke.
Bien sûr, avec plaisir.
Alors, musique africaine avec Mori Kanté, toujours dans le jukebox de Philippe Green, Eco Frugal Project. Alors, on était sur l'Afrique, ouais. Le retour, ça se passe comment? Parce que quand on commence à vivre, entre guillemets, hors de France à 3 ans, et qu'on y revient quand on a 12 ans, entre guillemets, vous la connaissez pas trop bien, la France, et y revenir, ça doit être quand même un vrai choc.
Alors c'est un choc. Après bon, l'été on revenait en vacances.
Oui. Enfin vous étiez pas complètement coupé. On n'était pas complètement de la métropole, mais quand même.
Mais oui, en fait on s'aperçoit que je vous en parlais tout à l'heure, la singularité de notre enfance, ça s'est traduit des fois un petit peu. Je l'avais pas compris forcément quand j'étais jeune, à l'âge de 12-13 ans dans le premier collège français que j'ai rejoint en métropole. Par un petit peu de confrontation avec des autres élèves, mais je comprenais pas forcément la raison, une sorte de rejet, et c'est que seulement plus tard, adulte, que j'ai compris que c'était tout simplement un peu de la jalousie, et j'avais pas compris justement par rapport, j'avais pas compris cela.
Mais vous étiez différent, vous étiez différent.
Quand bien même, effectivement, je suis blanc, il y avait quand même une forme de rejet, un peu de. On m'avait demandé d'écrire le nom de mon collège au tableau, donc le collège Boulao, ça faisait rire tout le monde. Il y avait effectivement, il y avait pas forcément toujours de la bienveillance. Bon, après, c'est aussi lié à l'âge, 13, 14 ans, c'est pas tout, c'est un peu l'âge ingrat des fois, et on a besoin on cherche son identité.
On cherche surtout un peu à faire mal aux autres.
Dans la confrontation à l'autre, exactement. Voilà.
Alors, vous êtes bon élève ou pas?
J'ai toujours été j'ai fait le minimum à chaque fois pour passer dans la classe supérieure.
C'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme vous en fait.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'il y a une espèce de forme d'intelligence de jouer la règle à minima.
Oui.
Faut que ça passe.
Voilà, faut que ça passe.
Mais on n'en met pas plus.
Mais avec ce genre d'approche, on peut aller très loin parce qu'il y a toujours l'étape suivante. Et pour vous dire, le système scolaire, moi, ce qui me motivait, c'était de ne pas redoubler. Parce que pour moi, redoubler, c'était équivalent à la prison. C'était vraiment une sanction et je ne la voulais absolument pas, ces sanctions. Et donc, ça me motivait.
Donc, vous avez été plus motivé par le bâton que par la carotte?
Oui, souvent. Sauf que non, j'ai quand même quelques professeurs qui m'ont vraiment inspiré, qui m'ont donné. Enfin, on a tous, je pense, dans notre parcours scolaire, quelques professeurs.
On en cite un.
Ouais, on va citer mon professeur de français au lycée à Chrétien III, Pierre Bourgeois.
Voilà,
qui était un professeur extraordinaire.
Eh ben, écoutez, ça vous amenait jusqu'à où alors? Vous faites le bac?
Alors, ensuite cursus traditionnel. Je fais ensuite des études de droit. Tout simplement, j'étais intéressé par les métiers du commerce, mais j'étais pas assez bon en maths, et donc.
Alors, parce qu'en général, pour faire les métiers du commerce, on va pas en droit.
On va pas en droit.
Mais vous, si.
Mais oui, en fait, j'étais intéressé par les marchés financiers, parce que je vous en parlerai après, mais j'ai travaillé pendant 12 ans et demi dans une banque d'investissement américaine, et je savais que pour aller dans ce genre d'établissement, il fallait sortir d'une grande école. J'étais pas suffisamment bon en maths pour aller dans une grande école, et donc j'ai choisi droit parce que c'était de la culture générale, ça m'allait très bien. Moi qui suis assez éclectique, il y avait différents domaines de l'histoire, du droit, mais de l'économie, donc ça m'allait très bien. Donc j'ai fait ça, et puis ensuite, dès que j'ai pu repartir à l'étranger, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai eu la chance de bénéficier d'Erasmus, et donc ensuite je suis parti faire mes études à l'université d'Oxford dans le cadre d'Erasmus, et ensuite.
Et juste une question, pendant tous ces temps-là, la musique, c'est quelque chose d'important ou c'est complètement c'est complètement autre chose? Enfin,
la musique, c'est extrêmement important, mais j'ai une approche avec la musique sensorielle, pas du tout intellectuelle. C'est-à-dire que ça risque de choquer vos auditeurs, mais je fais très rarement attention au texte. Pour moi, c'est du sensoriel, c'est-à-dire c'est ce que je ressens dans le.
C'est une émotion.
C'est une émotion. C'est un air dont je vais me souvenir. On dit des gimmicks pour les morceaux du type électro, tout ça. C'est ça. Et donc au point que je connais pas forcément le nom des musiques. Je sais pas forcément de quoi elles parlent. Mais c'est très important parce que pour moi, ça me donne beaucoup d'énergie.
Alors, justement, je vous ai posé la question quand vous rentrez d'une dure journée, quel est le titre que vous écoutez pour vous ressourcer? Là, vous m'avez dit très clairement, et alors c'est marrant parce qu'on avait déjà franchi la Manche pour se retrouver à Oxford.
Ouais.
Là, on est plutôt à Londres.
Ouais.
On est au Ministry of Sound.
Voilà.
Et on va écouter Pete Tong.
Avec grand plaisir. Un DJ célébrissime en Angleterre.
C'est parti.
Everybody's waiting for the drums to drop. Everybody's waiting for the drums to drop. And when these motherfuckers drop, everybody jump up. Everybody's waiting for the drums to drop. Everybody's waiting for the drums to drop. Everybody's waiting for the drums to drop. And when these motherfuckers drop, everybody jump up.
De retour après ce moment particulièrement festif, hein.
Ça réveille.
C'est votre truc.
Ça réveille.
Ça réveille.
Ouais. Ouais, c'est genre de musique, mais bon, moi, je conseille. Moi, j'ai pas de voiture et je me déplace en vélo. Mais c'est genre de musique qu'on peut écouter à fond tout seul dans sa voiture. Là, on est sûr de pas déranger. Et après le boulot, ça déstresse et ça permet. Ça permet de revenir serein à la maison.
Ça, c'est clair. Vous écoutez ça quand, vous, du coup, le matin un peu?
Pas tout le temps, mais le soir, le soir. Quand j'ai la chance de pas pouvoir mettre le son un peu fort sans déranger mes voisins.
Donc bah là, c'est-à-dire qu'avec les basses, je pense que
c'est du moins c'est ce que je pense. Et donc oui, le soir, j'aime bien. Ouais. Mais ça peut être n'importe quel moment. Après, c'est le Python, je l'écoute souvent en streaming, donc ça nécessite quand même un accès à Internet. Donc voilà. Pas aussi simple que d'allumer la radio.
C'est clair. Juste si on revient, donc vous passez de l'autre côté de la Manche.
Oui.
Vous êtes à Oxford, donc ça se passe plutôt bien.
Oui.
Vous êtes diplômé.
Voilà, en fait, je suis un double diplôme, maîtrise de droit anglais, voilà.
Et après, vous rentrez dans la banque, c'est ça?
Et après, voilà, ce qui est extraordinaire, c'est que les anglo-saxons sont beaucoup plus ouverts d'esprit quant au cursus. Ils recherchent avant tout des têtes bien faites, mais ils sont pas très regardants sur ce que vous avez étudié. Vous pouvez avoir étudié la théologie, et à l'époque, hein, ça nous ramène fin des années 90, aller ensuite travailler comme trader chez Salomon Brothers. C'est possible, ça c'est... Voilà. Et donc, quand j'étais là-bas, bah, j'ai vu les banques d'affaires qui venaient recruter sur le campus, et j'ai vu que c'était possible, malgré mon cursus, ce qui aurait pas été possible en France, était possible là-bas. Et donc, c'est là que j'ai décidé de rejoindre une banque d'affaires. Alors, ça peut paraître étonnant, vu mon parcours.
C'est un peu... Enfin, c'est pas étonnant, mais en tout cas, c'est pas forcément ce à quoi on imaginait que vous vous destineriez.
Oui. Alors, bon, il y a quand même le côté international, parce que dans ce genre de banque, c'est...
Alors, rappelons ce qu'est la banque d'affaires.
Oui. Alors, bon, la banque d'affaires, c'est deux choses. C'est premièrement assurer le financement des entreprises.
Mais c'est pas la PME du coin.
c'est pas la PME du coin, généralement c'est de, voilà, des grosses entreprises et des multinationales. Donc c'est les opérations de fusion-acquisition. Donc conseiller les entreprises dans leur croissance et dans leur stratégie, et puis également assurer le financement et assurer le marché secondaire du financement. Le marché secondaire du financement, c'est la bourse. C'est la négociation d'instruments financiers au quotidien, type obligations, produits structurés, matières premières, voilà, de tout type.
Donc là, on est vraiment sur de l'ingénierie financière et de l'accompagnement plutôt que de la banque de détail, et enfin, ça n'a rien à voir.
C'est, voilà, non, ça n'a pas grand-chose à voir. Ce sont les marchés financiers. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, l'intérêt que j'ai trouvé, c'est que on est quelque part dans la salle des machines du capitalisme. On est au cœur du système. Et moi, qui suis très curieux, j'avais vraiment envie de comprendre comment ça marche et de faire un peu une immersion dans ce monde-là.
Alors, est-ce que ça vous a plu déjà? Et est-ce que c'est la même chose? Vous l'avez, c'est un métier que vous n'avez fait que en environnement international, c'est-à-dire à Londres, ou est-ce que vous l'avez fait aussi en France, et est-ce le même métier?
Alors moi, j'ai commencé à travailler, première expérience professionnelle, chez Citibank Visa à Toronto, dans le monde de la carte bancaire. C'était passionnant, c'était en 98, on pouvait déjà voir un peu ce qui allait pêcher par la suite. Et ensuite, je suis rentré en France parce que mon visa a expiré, et puis là j'ai ressenti la nécessité de mettre un vernis un peu école de commerce, et aussi pas seulement mettre un vernis mais aller apprendre un peu plus dans ce domaine. Et donc j'ai fait un MBA à Sciences Po, et à la sortie de ce MBA, j'ai rejoint donc une banque d'affaires américaine basée à Paris, enfin qui avait une succursale à Paris, et donc j'ai travaillé de 2000 à fin 2012, à mi-2012 exactement.
Et vous êtes bien amusé?
Ah, j'ai trouvé ça passionnant parce que j'ai eu la chance de faire différents métiers, assistant courtier. Ensuite, j'ai eu la chance de faire du contrôle de risque, du compliance, et ensuite de finir ma carrière là-bas en tant que courtier. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Je me suis spécialisé progressivement sur la thématique du développement durable parce que je trouve que c'est un domaine fascinant intellectuellement. Il se passe plein de choses, et puis c'est un domaine aussi qui brasse de l'argent. Heureusement, les gens commencent à investir dans ce domaine.
Et du coup. La question que tout le monde se pose, on prend du gros fric ou pas?
Oui, c'est des métiers où on gagne beaucoup d'argent.
Ouais. Non, mais c'est bien. Enfin, hein, c'est pas un jugement, mais il y a une légende. Donc, est-ce que c'est une réalité? Oui.
Oui, c'est des métiers qui sont très très bien payés. Après, la question aussi de l'utilité sociale de ce que vous faites se pose. Donc, certes, c'est une chose de gagner beaucoup d'argent. Si vous pensez que vous le faites au détriment du système et de l'utilité collective, ça peut laisser un arrière-goût amer.
Alors, moi, je vous ai posé ensuite la question du titre que vous associez à votre première entreprise, puisque vous avez, on l'a vu, quitter en tout cas ce monde et cette entreprise.
Oui.
Pour monter Ecofrugal,
voilà.
Project. Et là, vous avez étonnamment choisi Mickey 3D avec Respire.
Voilà.
Ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute, que tout le monde fasse bien attention aux paroles. Et puis ensuite, vous allez vraiment nous faire un commentaire de texte.
Avec plaisir.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique, qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain, la veille, qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain, c'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Alors Mickey 3D qui effectivement a fait un magnifique succès avec ce Respire.
Ouais.
C'est vraiment ce que vous aviez envie de faire d'un seul coup, de respirer.
Oui, respirer, d'entreprendre. J'ai toujours eu envie d'entreprendre.
Donc envie d'entreprendre.
Ouais, envie de faire des
en
choses.
En même temps, envie de donner du sens.
Envie de donner du sens à l'argent et EcoFrugal Project. L'argent il reste présent. Hein. Il y a quand même un lien avec le monde professionnel dans lequel j'étais. C'est l'argent, mais faire en sorte que cet argent en tire un maximum d'utilité sociale, environnementale. Et l'argent, c'est un facteur très puissant. C'est ce que j'ai pu constater que, au cours de ces 12 années, que l'argent mène le monde. Alors moi, je viens d'un milieu qui n'est pas un milieu d'argent, donc il fallait peut-être que je passe par là pour comprendre à quel point l'argent était important pour beaucoup. Et cet argent, c'est un signal d'information qu'on peut utiliser aussi à bon escient. C'est le but d'EcoFrugal Project.
Alors, juste revenir, vos parents qui vous ont vu partir, alors à l'étranger, je pense qu'il devait être content et que voilà. D'un seul coup, après, il vous voit partir dans la banque, quel avis, quel retour. Et après, il vous voit, entre guillemets, tout larguer pour d'un seul coup, vous faire un petit trip de, j'exagère un peu, mais de, je monte ma petite entreprise écolo. C'était quoi le regard?
Alors,
je suis très caricatural, je fais exprès.
Oui, oui. Je pense que ça a étonné un peu. Pas forcément étonné les gens autour de moi parce qu'ils savent que je suis éclectique, que je pense que la vie, on tourne des pages et que je vois pas la vie de manière linéaire en projetant une tendance et en la continuant. Pour moi, c'est pas ça. C'est des tranches de vie et voilà, c'est aussi peut-être lié à mon enfance, le fait d'avoir vu des choses très différentes. Et donc, voilà, on passe d'une étape à l'autre et ces étapes peuvent être très différentes entre elles. Après, par rapport à la prise de risque, moi, j'estime que ma prise de risque est mesurée et que c'était un moment dans ma vie où j'avais la possibilité de me lancer. Mais c'est clair que, vu le monde que j'ai quitté, il y a eu de l'incompréhension autour de moi. Il y a eu de l'incompréhension de la part de mes amis ou des membres de ma famille.
Et peut-être de la jalousie. Parce que ce que vous avez fait, c'est-à-dire à un moment de tout plaquer, pour partir sur un projet qui correspond à votre fort intérieur, à ce que vous pensez, et j'allais dire entre guillemets vous donner les moyens de le faire, c'est un peu le rêve aussi de beaucoup de gens. Et vous le faites.
Peut-être effectivement, je pense à des anciens collègues. Finalement, il y en a qui savent ce que je fais maintenant, mais j'ai pas forcément eu, j'ai pas eu d'informations de leur part. Et quelque part, peut-être que ça leur envoie une image d'eux-mêmes un peu négative, dans le sens où eux, ils sont sur une tendance qui prolonge, et c'est une tendance où l'argent est au cœur de la motivation. Et de voir peut-être qu'on peut faire autre chose, c'est aussi, ça peut être pour certains, susciter un peu l'interrogation, voire une forme de jalousie peut-être, je sais pas.
Alors avant de reparler plus précisément du guide EcoFrugal et puis globalement de la manière dont l'EcoFrugal Project fonctionne, on va écouter un morceau que vous avez choisi de Bob Marley qui s'appelle justement Zimbabwe, qui fait aussi une référence à l'Afrique et qui nous donne un peu toute cette tendance et ce voyage.
Every man got the right to decide his own destiny. And in this judgment there is no
Alors ça se passe exactement pareil, c'est-à-dire que comment vous envisagez, est-ce que c'est la place de village, est-ce que c'est l'esprit africain qu'on retrouve dans Ecofrugal Project?
Un petit peu.
C'est quoi un peu justement votre manière de voir la communauté? Parce que à un moment vous faites un guide, mais bien c'est voilà. Bien pour que les gens puissent se l'approprier et vivre ensemble.
Alors dans le langage que vos auditeurs vont comprendre, il y a deux axes, il y a le B2C et le B2B. Et le B2C, donc c'est le particulier, l'individu. Et l'idée, c'est que à plusieurs, il est plus facile d'agir. Ça, c'est vrai en général, mais c'est encore plus facile d'agir pour le pouvoir d'achat, pour réduire son impact environnemental et en plus en gagner en qualité de vie. Et donc, le guide Ecofrugal existe. On a créé des petites vignettes qu'on peut coller sur sa boîte à lettres avec un flashcode, avec le message suivant: je fais des économies en protégeant la planète. Et l'idée, c'est que il fait aussi office de stop pub, si vous voulez, hein, c'est deux en un. Et quand votre voisin passe devant votre boîte à lettres, il peut de cette manière télécharger le livre gratuitement en flashant le code. Et avec les fiches ressources du livre, du guide Ecofrugal, qui concerne tous les sujets, le transport, l'alimentation, il va s'apercevoir que avec son voisin, il peut aller beaucoup plus loin dans la réduction d'impact, dans la qualité de vie.
Des exemples.
Il y en a plein. Par exemple, vous avez alors c'est
des trucs faciles, hein, parce que
ouais, je vais vous en donner un
les
facile.
Les 24 poubelles dans la cuisine d'un studio, c'est pas toujours évident.
Je vais vous en donner un tout simple, mais par exemple, j'ai besoin d'un marteau ponctuellement. Bon bah, j'ai pas acheté un marteau. Je vais voir ma concierge. Ma concierge, elle a un problème avec son ordinateur. Elle est prête. Voilà, elle est au bord du précipice parce que voilà, plus rien ne marche. Et ben, je jette un coup d'œil sur son ordinateur et puis je trouve une solution. Et c'est l'entraide comme ça au quotidien qui recrée l'esprit village. Et en plus, on a tout ça à y gagner parce que économiquement, c'est loin d'être anodin. on réduit son impact, ça évite de démultiplier les objets en tout genre.
Surtout que pour y aller et pour revenir, on a fait du sport.
Oui.
Donc en même temps, on fait du sport. C'est-à-dire qu'on va chez la concierge, on remonte et on redescend, mais on ne prend pas l'ascenseur.
C'est vrai, on ne prend pas. Hein, chez moi, il n'y a pas d'ascenseur, mais effectivement. Et entre-temps, on a discuté, on a conversé et on s'aperçoit que le niveau de vie, c'est pas seulement du pouvoir d'achat, même si j'insiste sur ce point, c'est également de la sociabilité, de l'interaction entre les individus. On est des animaux sociaux, des êtres sociaux, et je pense que particulièrement dans les grandes villes, on a besoin de regagner un peu l'esprit village. Alors, il y avait ses mauvais côtés, le côté village, il y avait le côté commérage, il y avait le côté aussi très difficile d'affirmer son identité quand elle est spécifique, parce que le groupe a tendance à vous noyer. Mais il y a aussi plein de côtés sympas dans le village, le côté solidaire, l'entraide, le fait que ce soit un écosystème relativement résilient. Et ça, peut-être dans la modernité, en cours de route, on allait un peu trop vite, on a perdu un peu ça. Et je pense qu'on peut le recréer aujourd'hui au niveau des immeubles, au niveau des voisinages. Et donc le but, c'est que le guide éco-frugal et ses fiches ressources servent à alimenter des personnes qui veulent se lancer dans ce genre de démarche. Donc ça, c'est au niveau des particuliers. Et au niveau des entreprises, en fait, vous me demandiez tout à l'heure le succès. Mmh. En fait, la grande surprise, c'est que c'est les entreprises d'aujourd'hui qui permettent à Ecofrugal de vivre, d'avoir des revenus. 80%, il y a plus d'un millier d'exemplaires qui ont été vendus. 80%, ce sont des entreprises. Et en fait, elles achètent le guide Ecofrugal pour offrir à leurs salariés.
Mais est-ce qu'elles arrivent elles-mêmes à faire les choses,
parce que justement dans le guide il y a 12 rubriques dont une partie qui est consacrée à la vie au travail, hein. Fallait forcément que j'en parle parce que ça fait partie de nos vies. Le guide essaye de parler de tous les aspects du quotidien, la vie au travail en fait partie, et donc il y a toute une partie qui décrit les solutions économiques écologiques qu'on peut mettre en œuvre au travail. Et donc les chefs d'entreprise, l'intérêt qu'ils voient, c'est premièrement c'est un livre qui leur permet de faire des économies, parce qu'un salarié, un poste tertiaire qui applique les solutions du livre, il peut faire économiser entre 1 € et 1,50 € par jour à son employeur. C'est colossal. Sur un an, c'est quasiment 250 €. Le livre fait 29 €. Si je parle comme un financier en ROI, ça fait du ROI de 1000%.
On sent le financier. Hein.
Comment ?
Il y a des vieux réflexes qui reviennent.
Et puis aussi, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que dans le guide Ecofrugal, il y a une approche quand même très cartésienne avec des éco-calculateurs, des témoignages et des études de cas.
Donc ce que vous proposez en gros à tout le monde, c'est au moins... Si vous allez jeter pas le guide, c'est au moins d'aller sur
le
site.
De le télécharger gratuitement.
De le télécharger et d'essayer.
Et d'essayer. Voilà.
Après, vous verrez si vous êtes pas obligé de faire les 572 fiches dans le premier mois.
Bien entendu.
En revanche, sélectionnez-en quelques-unes et testez.
Exactement. C'est pas le menu, c'est à la carte. Et en fait, dans l'éco-frugalité, on n'est pas dans le blanc ou le noir. On essaye d'être un peu plus gris clair. On est tous dans le gris foncé et chacun va agir à sa manière. Donc, peut-être, puisque c'est une fiche de circonstance, on est à un mois de Noël, des fêtes de fin d'année. Généralement, c'est un pic de consommation avec tout ce qui peut avoir aussi de choquant en termes de gaspillage. Eh bien, il y a une fiche qui existe, une fiche éco-frugale qui s'appelle pour bien préparer les fêtes de fin d'année. Les auditeurs peuvent aller la télécharger et ça va leur donner des idées pour avoir des idées de cadeaux, par exemple, peut-être plus originales et qui ont moins d'impact sur la planète et qui ont plus de sens. Et pareil, dans l'organisation des fêtes, ils vont pouvoir s'y prendre d'une manière plus éco-frugale qui va peut-être les amener à faire des choses par eux-mêmes, à partager du coup avec des membres de la famille, de leur famille, des choses qu'ils ne feraient pas par ailleurs.
Bien, bah alors on voit en tout cas que c'est des choses qui vous touchent. On voit que là vous parliez plus avec, vous parliez en tout cas avec votre cœur. Okay. Et moi je vous ai posé la question du morceau qui vous touche le plus et vous m'avez dit sans hésiter l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Pourquoi ça vous touche ?
Je vous ai dit tout à l'heure, j'intellectualise pas trop la musique, je suis sensoriel. Ça me donne la chair de poule. Pourquoi ça me donne la chair de poule ? Je sais pas. C'est la magie de la voix d'Edith Piaf, je pense.
On écoute.
Ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Ne m'abandonne si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes mains, tant que mon corps frémira. Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi.
Alors, ce fameux hymne à l'amour, on arrive dans la dernière partie de ce jukebox avec Philippe Green. Philippe, on va arriver sur la question qui fâche toujours, la question traditionnelle. Dans 5 ans, vous faites quoi, Philippe? Et dans 5 ans, Ecofrugal Project, on en est où?
Alors, dans 5 ans, ce que j'aimerais, c'est que Ecofrugal, le rêve, vous me donnez l'occasion de me dire mon rêve, ce serait que Ecofrugal, ce soit un terme du langage. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que si Ecofrugal devient un terme du langage, le langage n'est pas neutre. Quelque part, nommer, c'est agir. Et je vous disais tout à l'heure, le problème actuellement, c'est qu'on parle de tas de choses, de système D, de débrouille, de do-it-yourself, d'économie collaborative, mais plus personne y comprend quelque chose. Si au quotidien, les gens utilisent le mot Ecofrugal, ça veut dire qu'ils vont pouvoir arbitrer.
Ça veut dire que c'est un adjectif? On dit trade quelque chose, c'est éco-frugal.
Voilà, ça veut dire qu'ils pourront arbitrer très facilement en prenant en compte le paramètre économique et écologique. Et donc mon rêve, ce serait que ce soit un mot qui se développe. Et puisque le mot éco-frugal est à consonance latine, et ben qu'il soit repris par les Américains pour une fois, que ce soit nous qui leur apportons un mot.
Parce que leur mot. Comme entrepreneur.
Parce que le mot qu'ils ont, éco-friendly, il est bien gentil, ce mot-là. Le problème, premièrement, c'est qu'on commence à l'utiliser dans la langue française, alors qu'on a quand même, un patrimoine à défendre. Et puis, deuxièmement, ce mot-là veut absolument rien dire. Éco-frugal, c'est simple. Ce produit ou ce service réduit votre impact et vous faire des économies où il n'est pas plus cher.
Donc, vous êtes rentré à l'académie, puisque de toute manière, donc dans 5 ans, le mot est dans le dictionnaire.
Ça serait le rêve.
Et la deuxième chose, c'est peut-être aussi, vous faites quoi? Vous avez grossi, vous êtes une grosse entreprise, vous êtes une moyenne entreprise,
alors,
vous avez disséminé, qu'est-ce qui se passe?
On peut imaginer que le guide Ecofrugal soit réédité tous les 2-3 ans, parce que ce monde de produits et de services à moindre impact change extrêmement rapidement. Quand on se penche sur le sujet, il y a de quoi être optimiste, parce qu'il y a des innovations tous les jours. Et donc ça passe par une réactualisation du livre, et ensuite un développement international. Mon modèle, c'est le Lonely Planet, pour parler que de la partie édition, parce qu'il y a d'autres...
Le Lonely
Planet. et qu'on fasse demain un guide écofrugal pour les États-Unis. Je suis en discussion actuellement sur ce sujet.
Sur d'autres médias aussi que le papier, je sais pas, télé, je sais pas, ça, non?
La télé, je pense que j'en profite s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont dans ce milieu-là, pour faire les vignettes écofrugales, donc les fiches déclinées sous forme vidéo, ça peut être très efficace et il y a une demande pour ça. Ces nouveaux modes de consommation s'imposent. Donc si vous êtes une entreprise, soit vous les subissez, soit vous les anticipez. Si vous les anticipez, vous rejoignez Ecofrugal Project. Et également, je vous ai parlé d'un projet de télé-réalité qui serait un peu le projet dont je vous ai parlé tout à l'heure au niveau de village dans un immeuble, mais cette fois en le médiatisant, le filmant. Voilà quelques-uns des objectifs d'Ecofrugal Project. C'est très large, ça passe par le livre, mais ensuite ça se décline en transmédia de différentes manières. On commence à avoir des partenariats avec un annonceur comme Monsieur Bricolage, par exemple, qui nous rachète du contenu parce qu'ils sont convaincus de l'intérêt d'associer économie avec écologie. Donc voilà, j'en profite aussi pour dire que le livre peut être décliné en marque blanche.
Profitez.
Et donc si des entrepreneurs veulent associer leur entreprise, on peut décliner le livre sur mesure au nom de leur entreprise avec un petit mot sur leur engagement dans le développement durable.
Bon, bah écoutez, je crois qu'on a déjà en tout cas une belle course. Une liste de Noël, comme on dit.
Voilà.
Pour vous. Donc, n'hésitez pas à offrir le guide écofrugal.
Voilà.
Pour les fêtes de Noël. Et puis, moi, il va me rester à vous souhaiter plein de belles choses dans toutes vos entreprises. On va quand même se quitter, Philippe, par votre dernière musique, puisque c'est celle que vous voulez faire découvrir aux auditeurs. Vous avez choisi Avicii avec Wake Me Up.
Ah, bah, c'est au cas où on les aurait endormis. Oui, je les aurais endormis. Pas vous, Vincent, mais au cas où je les aurais endormis, voilà, c'est histoire qu'ils se réveillent.
Alors, on va les laisser se réveiller avec Wake Me Up. Merci beaucoup, Philippe.
Merci.
Green. Et puis, soyons tous, en tout cas, un minimum écofrugal.
Un minimum, voilà. C'est ce que je vous demande.
Merci. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost.
The others, they don't like us.
Yeah. I know.
Why?
Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up. I didn't know.
siblings.
Where are we going?
Somewhere we belong.